Voilà.
Yeah. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Nous sommes en compagnie du journaliste Fabrice Nicolino qui vient de publier « Ce qui compte vraiment » aux éditions « Les liens qui libèrent ». Un cri du cœur au milieu de la campagne présidentielle française pour essayer de faire surgir l'écologie comme un sujet majeur. Presque tous les candidats à l'élection présidentielle ont visité le fameux salon de l'agriculture qui s'est déroulé à Paris. Preuve que le sujet les interpelle, mais avec quel modèle en tête? C'est toute la question que vous posez, Fabrice Nicolino, dans votre livre. Je rappelle que vous êtes en duplex de Nantes grâce aux équipes techniques de France Bleu Loire-Océan. Alors vous écrivez, l'agriculture intensive est l'un des plus grands tueurs de la vie sur Terre. Est-ce que vous pouvez détailler pour nos auditeurs ?
Oui, je peux détailler, mais restons pour le moment aux frontières de la France. Les chiffres officiels, si toutefois c'est un sens de dire ça officiel, nous décrivent en France une véritable apocalypse. Je connais le sens des mots et j'emploie pas ce mot par hasard. On vit une sorte d'apocalypse qui indiffère à peu près tout le monde, mais néanmoins elle existe. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, depuis 1960, ça c'est les estimations du Muséum national d'histoire naturelle, environ la moitié des oiseaux, non pas les espèces, mais la moitié des effectifs d'oiseaux en France ont tout simplement disparu. La moitié. Les papillons, on pense que à peu près la moitié des papillons nous ont quittés en un peu plus que 20 ans. De même, par exemple, pour les orthoptères, il y a une étude tout à fait récente qui montre que les criquets et les sauterelles disparaissent elles aussi. Les abeilles, tout le monde le sait. Les fleurs sauvages, de même. Et ainsi de suite. Tout ça est absolument documenté. Certains à peu près indiscutable. Vous savez, il y a une expérience que tout le monde peut faire, enfin, tous les champs d'un certain âge, mais à mon avis, à partir de 35-40 ans, c'est très facile de faire cette expérience. Vous prenez votre voiture, vous faites 500 km en France, sur les routes, vous regardez votre pare-brise, il n'y a pas besoin de le nettoyer. Et je vous assure qu'il y a 30 ou 40 ans, quand on faisait un trajet de 500 km sur les routes françaises, on avait une multitude de papillons et d'insectes collés sur le pare-brise et sur le pare-choc avant. C'est terminé.
Et c'est pour vous, terminé. C'est la faute à l'agriculture.
Ah, mais c'est pas pour moi. Je veux dire, tout cela a été maintes et maintes fois étudié, analysé, validé. C'est certain à 100%, l'agriculture industrielle gorgée de pesticides et qui a entraîné des modifications du territoire agricole français majeures, par exemple par l'arasement des talus boisés, par le remembrement, par tous ces phénomènes d'industrialisation de l'agriculture. Oui, c'est l'agriculture industrielle qui est la responsable essentielle de cette disparition foudroyante d'animaux avec lesquels on cohabitait depuis des dizaines ou des centaines de milliers d'années.
Et donc tout cela, pourquoi pour un monde agricole qui finalement est en crise ?
Désespéré, mais disons-le franchement, c'est pas la peine de chercher d'autres mots. Bien sûr qu'il y a quelques gagnants, il y a toujours des gagnants dans toute aventure, quelle qu'elle soit, et Dieu sait qu'il s'agit d'une terrible aventure. Il y a des gagnants, certes, le défunt Xavier Bellin qui était le président de la FNSEA qui vient de décéder d'une crise cardiaque, paix à son âme. Cet homme était un gros céréalier de la Beauce ou de l'Eure-et-Loire, 500 hectares de céréales. Il était en même temps patron d'une énorme holding agro-industrielle qui s'appelle Avril, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et il est clair que, oui, ça a permis l'émergence comme ça de géants industriels. Ça a permis à un certain nombre d'agriculteurs de gagner beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais la plupart des autres vivent un véritable calvaire. Il faut imaginer ce que ça veut dire aujourd'hui paysan. Dans l'après-guerre, à partir de 1945 et jusque dans les années 80, disons, les paysans étaient considérés comme des sauveurs de l'humanité. Ils nourrissaient le monde. C'était le mantra de tous ceux qui parlaient d'agriculture pendant très longtemps en France. Aujourd'hui, ils sont vus comme des pollueurs de la pire espèce. Ils se retrouvent dans des situations affreuses où leurs propres enfants, quand ils sont en âge d'avoir des enfants jeunes à l'école, leurs propres enfants sont moqués, vilipendés et pire parfois dans les cours de récréation.
Tout voilà, ça on comprend pourquoi du coup il ne représente que 3,5% de la population active aujourd'hui, ce qui est extrêmement peu finalement.
Mais c'est délirant. Si vous voulez, il y a un de nos grands historiens, Fernand Braudel, qui a décrit ça dans un livre extraordinaire, posthume, en 1986, L'identité de la France. Lui qui a vécu deux guerres mondiales, qui était né au tout début du XXe siècle, dans L'identité de la France, eh bien il décrit la mort des paysans en France comme le phénomène le plus impressionnant à ses yeux, avant les guerres mondiales. Il compare explicitement les paysans paysans et une armée en déroute qui abandonne ses positions sans combattre, en laissant derrière elle tout ce qui pouvait faire leur vie précédemment. Et les paysans, en effet, ont tout abandonné. Et ils ont disparu, en effet. Il y avait 10 millions d'actifs agricoles en 1945 en France. Vous imaginez ce que ça veut dire. La France était encore un pays très agricole. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout regretter. Bien sûr que non, c'est pas, ça serait absurde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a échangé un pays contre un autre, tout simplement.
Et tout cela coûte extrêmement cher à l'État, en plus.
Mais à l'État, à nous tous, qui l'État, ça veut rien dire, c'est nous,
en fait,
qui payons. Bien sûr, mais si vous voulez, le calcul n'est jamais fait. Moi, j'ai essayé un peu dans mon livre de rapprocher quelques chiffres. C'est effarant. Si vous voulez, on prétend contre l'évidence que l'agriculture est bénéfique sur le plan économique et qu'elle concourt de manière positive à la balance des paiements. C'est totalement faux. Ça, c'est une vision complètement chimérique. Parce que si on fait l'addition de toutes les aides à l'agriculture, toutes les aides, y compris les fonds publics très importants liés à la dépollution, pensez par exemple aux algues vertes en Bretagne, il s'agit de plusieurs milliards d'euros. Essayez nettoyer, de dénitrifier l'eau de surface pour faire de l'eau dite potable, mais ça coûte énormément cher. Il faut comprendre, on pourrait parler aussi des maladies, des maladies induites par des productions alimentaires, notamment animales, industrielles, qui posent des problèmes de santé publique. Tout ça devrait être chiffré, mais évidemment on ne le fait pas, car à mon sens, si on sait ce chiffrage honnêtement, on arriverait à la conclusion fatale que l'agriculture industrielle nous coûte bien plus qu'elle ne nous rapporte.
Alors face à cet essoufflement, heureusement, il y a des pionniers, il y a des modèles qui sont mis en avant. Bonjour Maxime de Rostolan.
Bonjour.
Alors depuis fin 2013, avec votre programme Ferme d'Avenir, vous menez une expérience à 240 km au sud-est de Paris qui consiste à prouver qu'il y a des formes d'agriculture justement plus rentables que le modèle intensif à base de produits chimiques dont la France se gave depuis 60 ans. Alors quel modèle étudiez-vous ?
Alors nous, on se repose sur les modèles qu'on appelle agroécologiques, on s'inspire de la permaculture, donc on travaille avec la nature plutôt que contre elle. Alors juste un petit mot pour revenir sur ce que M. Nicolino vient de dire, merci infiniment parce que c'est exactement, alors cet exemple des moustiques sur les pare-brises, il est juste incroyable et effectivement à chaque fois que j'en parle en conférence, les gens se souviennent de ce phénomène. Sur le chiffrage, un petit chiffre intéressant, la production agricole française c'est 60 milliards d'euros, la pollution générée par la production agricole et de 60 milliards d'euros elle-même. On fait une opération neutre. C'est complètement absurde. Alors oui, ça fait du PIB, mais avoir un cancer, ça fait aussi du PIB et c'est pas souhaitable pour autant. Et une autre chose, c'est que le modèle agricole français qui compte entre 2 et 3% d'actifs dans l'agriculture, il faut absolument montrer, c'est notre responsabilité même géopolitique, de faire comprendre que ça ne fonctionne pas. Parce que tous les pays qui sont en voie de développement suivent notre exemple et on leur fait croire qu'avec 2 ou 3% d'agriculteurs, ça fonctionne. Or, ce n'est pas le cas. On importe, par exemple, là, sur ce qui nous concerne, nous on est sur les fruits et légumes, on fait du maraîchage, on importe 4 milliards d'euros de fruits et légumes par an.
Et ça représente quel pourcentage de la consommation ?
Je ne sais plus exactement, mais tous les chiffres, vous pouvez les trouver dans le plaidoyer Ferme d'Avenir. Donc ce chiffrage, M. Nicolino, on l'a fait. Et donc on montre que si on voulait fournir 33% de la population française en bio local, sur les fruits et légumes, ça représenterait 226 000 emplois à créer. Et effectivement, le solde est totalement positif puisqu'on économiserait ensuite sur toutes les externalités que l'agriculture chimique a fait beau jeu de justement de passer sur nos impôts et de sortir du prix du produit pour faire croire qu'un produit industriel vaut moins cher qu'un produit bio. Ce n'est pas le cas.
Et alors vous prouvez le contraire vraiment sur le terrain, j'ai envie de dire. Vous avez choisi de cultiver donc un hectare avec différentes formes d'agriculture, hein, l'agroécologie, la permaculture, le biomimétisme aussi, stérimiter la façon dont fonctionne la nature. Alors est-ce que ça marche aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pouvez dire au bout de quasiment 3 ans de pratique ?
Ce que je peux en dire, c'est que c'est pas simple. C'est que c'est pas simple parce qu'on travaille avec le vivant, déjà. Et le vivant, le climat, la météo, sont des aléas qui sont parfois incontrôlables et qui nous font subir un petit peu leurs caprices. L'année dernière a été très difficile pour l'agriculture et donc on a sorti des résultats moins importants que ceux qu'on espérait. Il faut comprendre que, oui, on montre un modèle qui est potentiellement pas plus rentable aujourd'hui, mais plus viable, c'est-à-dire plus résilient, qui a une capacité à s'adapter aux changements à venir bien plus forte, mais la conjoncture n'est absolument pas favorable. Avec un baril de pétrole à $50, vous pouvez mettre tous les gens que vous voulez à bosser face à un tracteur, le tracteur sera toujours plus compétitif. Mais c'est un leurre à nouveau, puisque le baril, dans quelques années, vaudra $500, et là, on ne saura plus se nourrir. J'ai un autre chiffre qui est intéressant, qui montre vraiment l'aberration du modèle dominant. en 1940 avec une calorie fossile, on savait produire 2,4 calories alimentaires. Donc avec un petit peu d'énergie, on doublait, voire on triplait ce qu'on arrivait à produire en termes de nourriture. Aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. Nous avons divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture.
Pourquoi ? Parce qu'on a remplacé les hommes par des machines ?
On a remplacé les hommes par des machines. Il y a ce phénomène de mondialisation qui fait que quand vous avez quelque chose d'industriel dans votre assiette, il a généralement parcouru 1000 km avant d'arriver chez vous. Il y a l'histoire des emballages et il y a surtout les phytosanitaires. On parle d'agriculture conventionnelle. Moi, je ne suis pas très d'accord avec ce terme. Je n'ai pas été associé à la signature de ces conventions. Pour moi, il y a une agriculture ultra chimique et ultra mécanisée qui vit sur un pétrole pas cher et qui risque de s'effondrer le jour où le pétrole vaudra le prix qu'il doit valoir. Et donc, notre ferme, elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Elle crée beaucoup plus d'emplois. On est sur une intensité de main-d'œuvre à l'hectare qui est 6 fois plus importante que le maraîchage chimique. On arrive à installer quelqu'un sur 5000 m², un demi-hectare. Or, ce n'est pas du tout un modèle que les lobbyistes ont envie de favoriser, évidemment, parce que les lobbyistes convainquent les politiques que le seul modèle est un modèle qui repose sur une très forte mécanisation, sur l'emploi de phytosanitaires, etc. Donc le plaidoyer Ferme d'Avenir a pour objectif justement de chiffrer tout ça, et nous avons sorti une pétition, la pétition que vous trouvez en ligne, qui a déjà été signée par 70 000 personnes, que nous avons remise à Macron, que nous avons remise à M. Mélenchon, à M. Fillon aussi, et donc on propose des solutions pour dire rétablissons cela, il en va de notre propre survie. M. Nicolino parlait de tout à l'heure de la disparition des oiseaux, juste un chiffre absolument effarant, on a vu disparaître 40% des animaux sauvages en 40 ans. J'ai pas 40 ans. Dans le temps de ma vie, on a supprimé 40%, quasiment la moitié des animaux sauvages de cette planète. Et effectivement, l'un des principaux responsables est l'agriculture. La beauté de la chose, c'est que on accable l'agriculture de beaucoup de maux. Elle est responsable de beaucoup de gaz à effet de serre, de beaucoup de problèmes sanitaires, de l'érosion des sols et de la biodiversité, etc. Ce qui est génial, et c'est ça la permaculture, c'est que le problème, c'est la solution. Quel est le seul moyen d'assurer notre santé ? Ben, c'est de manger des produits sains. Quel est le seul moyen, le seul processus que nous connaissons pour séquestrer du carbone ? C'est la photosynthèse, c'est donc l'agriculture. Donc ce qui est génial, c'est qu'on a toutes les solutions en main, il faut juste les actionner, il faut juste être plus fort que les lobbyistes qui sont à Bruxelles et qui détricotent la PAC à chaque fois qu'on essaie d'y mettre des mesures un petit peu de bon sens. Et donc le lobbying qu'il y a à faire, c'est un lobbying citoyen. Donc le consommateur a évidemment un énorme pouvoir en consommant bio et local autant que possible. Et on peut aussi influer par notre bulletin de vote et dire ce que nous voulons, c'est une agriculture de bon sens, de proximité, qui régénère les écosystèmes.
Alors la bonne nouvelle, c'est que le bio fédère de plus en plus de monde en France. Les chiffres sont assez impressionnants. Et puis vous lancez, Maxime de Rostolan, le premier Tour de France de l'agroécologie. Cet été, pendant 3 mois, plus de 200 personnes vont sillonner la France en bus ou à vélo pour aller à la rencontre justement de ceux qui inventent un nouveau modèle. Donc l'agriculture française serait quand même à une toute petite échelle, en train de changer ?
Ah oui, non mais heureusement. Alors sur l'augmentation et la croissance du bio, c'est super. Et effectivement, on prend entre 20 et 30% cette année sur la demande en bio. Le seul problème, c'est qu'effectivement, l'offre n'est pas là. C'est-à-dire que si on est obligé d'importer du bio qui vient d'Espagne ou de Pologne, c'est un petit peu ennuyeux. Et donc, il y a effectivement un gros enjeu d'installation. C'est-à-dire que toute la filière aval est demandeuse. Il y a un gros appel d'air qui est provoqué par les citoyens. Le problème, c'est que sur les 570 000 agriculteurs aujourd'hui en activité, il y en a 170 000 qui partent à la retraite d'ici 2020. Donc il va falloir installer des gens. Et il y a énormément de gens qui ont envie de passer d'un retour à la terre. Et ces gens-là, ils se posent plein de questions parce qu'ils sont aujourd'hui informaticiens, aujourd'hui citadins, et ils n'ont pas forcément d'héritage paysan. Il n'y a plus d'héritage paysan. Et donc ils veulent savoir de quoi ils auront l'air dans 3 ans si jamais ils passent à l'acte. Et donc le Tour Ferme d'Avenir, c'est le FAT Project. On va partir pendant 3 mois, entre le 15 juin et le 15 septembre. On va s'arrêter à 30 étapes, et à chaque étape on ira visiter 4 à 10 fermes qui inventent effectivement cette agriculture d'avenir, qui est une agriculture qui en plus rend les paysans heureux, rend les citoyens heureux en bonne santé, fait du lien, fait revivre les zones rurales. Et ça, c'est vraiment une planification à long terme, et ça relève d'engagement politique, et on invite vraiment les candidats à s'emparer de ces questions, et les citoyens à voter en fonction des programmes que nous proposeront les candidats. Ouais.
Merci beaucoup Maxime de Rostolan pour votre témoignage, et nous vous suivrons évidemment dans votre Tour de France de l'agroécologie. Fabrice Nicolino, tout cela est évidemment très enthousiasmant. Le problème, c'est que nous avons exporté nos modèles agricoles, avec des conséquences dramatiques pour les populations locales et les sols.
Bien sûr que oui. Si vous voulez, la situation de l'agriculture et la gravité de cette situation est très sous-estimée. D'une façon générale, les lobbies industriels, il faut comprendre qu'il y a des entreprises transnationales que tout le monde connaît, hein, Monsanto, Bayer, BASF,
qui se marient entre eux en plus.
Oui, qui se marient entre eux, mais surtout, elles, ce sont des puissances absolument extraordinaires, dont le chiffre d'affaires souvent est supérieur au budget d'États entiers de la planète. Donc ce sont des puissances colossales. Bien sûr qu'elles ont exporté ce modèle et pour cause. Elles sont soutenues d'ailleurs par des tas de gens. Vous voyez, par exemple, Bill Gates, le fameux Bill Gates, qui dispose d'une fortune colossale, soutient des projets liés aux intérêts des transnationales en Afrique ou en Asie. Et le résultat de ces pratiques-là, l'usage inconsidéré de pesticides, d'engrais de synthèse, une irrigation massive totalement folle qui ne sert qu'à produire une alimentation destinée à être exportée vers nos pays. Je veux dire, ça ne sert même pas à la consommation locale. Donc, si vous voulez, la situation générale de l'agriculture commanderait un sursaut de nature historique, puisque l'enjeu est là. L'enjeu, c'est de défendre l'existence de toutes les formes vivantes sur la Terre, humains compris. Il est évident que je ne cite pas les humains au niveau, disons, d'une sauterelle, mais ce que je veux dire, c'est que tout est connecté, interconnecté, et c'est bien en défendant les formes vivantes existant sur Terre qu'on permettra sans doute de sauver l'humanité dans sa réalité. On ne peut pas espérer nourrir les hommes, les 10 milliards qui s'annoncent, on ne peut pas espérer les nourrir dans des conditions correctes, sans passer par une révolution dans le domaine de l'agriculture, sans passer par le retour à une agriculture, disons, de proximité et biologique, c'est pratiquement certain. Je sais que c'est pas un message extraordinairement enthousiasmant, mais néanmoins, le sursaut, Maxime de Rostolan vient de nous le dire, le sursaut existe, et pas seulement en France, et pas seulement en Europe, mais dans de nombreux pays du monde. Il y a des initiatives, en Inde par exemple, dont je connais assez bien la situation, il y a des exemples tout à fait considérables de sursaut. Par exemple, vous avez sans doute parlé à Silbra déjà de cette indienne Vandana Shiva, qui a réussi à créer une ferme tout à fait extraordinaire.
Oui, il y a de nombreuses reprises.
Voilà, je m'en doutais bien. Mais elle a réussi à créer une ferme où 2000 variétés de riz sont cultivées. Et ça, c'est un capital extraordinairement précieux.
Il y a de l'espoir, mais il faut une vraie volonté politique, quoi.
Je dirais même qu'il faut franchement imaginer une révolution, pas une révolution au sens que ce mot a pris dans le XXe siècle, mais une révolution, disons, de même nature fondamentalement que celle qui a eu lieu en Occident et en France en 1789. Je pense qu'il est temps de réfléchir ensemble à une déclaration universelle des devoirs de l'homme, parce que il manque ce volet-là clairement dans la déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. L'homme, parce qu'il domine la totalité des formes de vie sur Terre, a des responsabilités tellement écrasantes qu'il doit se donner les moyens de signer, de contresigner une déclaration universelle de ses devoirs. L'homme a des devoirs impérieux. L'homme doit défendre tout ce qui est vivant sur Terre.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Take the minute.
Trinidad et Tobago sur RFI, la formidable Queen Calypso Rose dans ses pas du vent, en compagnie du journaliste Fabrice Nicolino qui vient de publier Ce qui compte vraiment aux éditions Les liens qui libèrent. Fabrice Nicolino, j'aimerais vous faire écouter la manière dont Jean-Claude Amezen, médecin et président d'honneur du comité consultatif français d'éthique, explique l'essence de la vie.
On ne réalise pas que la vie, et donc nous, tous les êtres vivants, est ouverture sur l'extérieur. Et échange avec l'extérieur. Il n'y a pas de vie sans échange avec l'extérieur. Et donc, qui dit échange, dit communication, interaction, modification. Et nous avons tendance à voir le monde un peu comme constitué d'entités. Hein, un animal, des animaux, des plantes, des arbres. En oubliant ces éléments que tout être vivant, encore une fois, est ouvert sur son environnement. Et en oubliant aussi quelque chose, quand Francis Allais disait « elles sont radicalement différentes de nous », ce qui est très beau et très émouvant, ce que la théorie darwinienne de l'évolution du vivant a permis de découvrir il y a 150 ans, c'est que nous sommes tous cousins. C'est-à-dire que la différence apparemment radicale entre les animaux et les plantes, c'est simplement des degrés de séparation sur une généalogie commune, sur une parenté commune. Et donc, qu'il s'agisse de bactéries, de levures, de plantes, d'animaux ou de nous-mêmes, nous sommes tous des cousins dans une généalogie commune. Et puis depuis le début du XXe siècle, on sait que nous sommes aussi, parce que l'univers a aussi évolué, pas simplement l'univers vivant, nous sommes aussi les cousins des étoiles. Et donc je trouve qu'il y a quelque chose d'assez émouvant à s'apercevoir que nous faisons partie d'un monde, non pas d'un monde qui nous entoure, mais d'un monde qui est de notre famille. Et ça permet de penser que ce qui existe chez les plantes, ce qui existe chez certains animaux, eh bien, est présent sous une autre forme, chez nous aussi, et de chercher des points communs, et pas seulement ce qui a été une des spécialités de l'humanité, de chercher de manière obsessionnelle les différences qui nous sépareraient radicalement du reste du monde vivant.
Et oui, Fabrice Nicolino, nous sommes les cousins des bactéries et des étoiles à la fois. Ça nous donne un sacré sens du devoir, vous qui appeliez tout à l'heure à une déclaration des devoirs humains.
Les propos d'Amezen sont magnifiques, je ne peux qu'approuver mais, et ajouter mon petit grain de sel. Disons que j'ai tendance à contester le mot d'environnement qui renvoie explicitement à ce qui environne les hommes, comme si le monde était fait pour eux. Je lui préfère clairement le mot d'écologie et ça rejoint le propos d'Amezen, c'est-à-dire évidemment il y a des connexions de toutes sortes, généalogiques ô combien. En plus, on découvre sans cesse des choses qui nous obligent à repenser ce qu'est l'homme. Par exemple, on ne sait plus, quand on regarde de près les animaux, il y a beaucoup d'études éthologiques. Enfin, on a cru très longtemps au propre de l'homme, à quelque chose qui séparerait l'homme radicalement des animaux. Aujourd'hui, on en est beaucoup moins convaincu, car on s'aperçoit que les sociétés animales ont des formes culturelles parfois très avancées, qu'il y a des communications. Je pense aussi aux arbres. Je viens de lire un livre étonnant d'un forestier allemand qui s'appelle « La vie secrète des arbres », où il apparaît avec une clarté tout à fait stupéfiante que les arbres entre eux communiquent, ont des pratiques de coopération. En tout cas, il y a des formes de communication tout à fait extraordinaires et qui sont certaines. Et voyez, on est sur le point, je pense que la science, dans ce qu'elle a de meilleur, nous amène à un point où nécessairement il va falloir repenser le monde dans sa totalité et les liens entre les hommes et toutes les formes vivantes. C'est clair qu'il y a une unité certaine entre toutes les formes vivantes et elles incluent l'homme, bien sûr.
Alors c'est clair pour vous, c'est clair pour Jean-Claude Amezen, c'est vrai pour moi aussi, hein, vu que nous en parlons régulièrement dans cette émission. Maintenant, on arrive à la fin de cette émission, je vous demande si en vous écoutant et en écoutant ce dont on parle depuis presque une heure maintenant, nous ne sommes pas un peu utopistes finalement, parce que on a l'impression quand même que tout le monde s'en fout de ce que l'on raconte, non ?
Franchement, je ne crois pas ça. Je vais vous dire un truc, je pense souvent au tsunami de 2004 sur l'île de Sri Lanka, donc il y a eu ce tsunami terrible, et chose très très curieuse et très parlante selon moi, il n'y a eu pratiquement aucun animal mort. Les éléphants, par exemple, qui sont évidemment de très gros animaux, ont fui avant l'arrivée du tsunami et se sont repliés vers l'intérieur de l'île, et de même, beaucoup d'espèces animaux. On a retrouvé pratiquement aucun cadavre d'animaux. Hélas, beaucoup de cadavres humains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les animaux ont clairement une préscience qui nous échappe, dont le sens nous échappe, une préscience de ce qui va se passer. Et moi, je gage, sans preuve, mais je vous dis mon sentiment, je gage que les humains sont tenaillés par quelque chose qui est de nature animale, sans doute, en tout cas, qui nous ramène au passé le plus ancien de l'homme. et qu'il y a une inquiétude qui est en train de monter, qui n'arrive pas à trouver ses mots, qui n'arrive pas à trouver une forme intelligible, mais il y a une inquiétude majeure qui monte dans l'esprit de tant d'humains, et que je constate personnellement, parce que visiblement, on est confronté à quelque chose de très menaçant, de terriblement menaçant pour l'avenir des sociétés humaines, et je ne crois pas que les gens s'en foutent, si vous voulez. Le problème, c'est qu'il y a un phénomène de déni au sens du déni, par exemple, de grossesse, qui est un phénomène psychique extrêmement intéressant. Et je pense que face à l'ampleur du drame, finalement, face à l'ampleur des problèmes, les humains se replient dans des formes un peu régressives de déni de la réalité. Mais ça ne durera pas. Mon sentiment profond est qu'on est à la veille de grands changements.
Donc nous avons raison de faire des émissions comme celle-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fabrice Nicolino d'y avoir participé. Je rappelle le titre de votre livre, Ce qui compte vraiment. Il est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci aux équipes techniques de France Bleu Loire-Atlantique qui nous ont permis de réaliser ce duplex. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission et à vous pour votre fidélité. Au revoir Fabrice Nicolino.
Au revoir à vous, merci beaucoup.
Et vous, chers auditeurs, prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.